soir et bienvenue à vous tous qui avez accepté de rester à l'écoute de la fréquence de la TF pour votre tout premier numéro de la tribune de presse de ce mois de juillet. Au sommaire ce soir, encore une Congolaise tuée en Inde. Cela s'est passé dimanche dernier. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger qui a confirmé la mort dimanche dernier d'une Congolaise en Inde parle d'une épouse qui a succombé à des coups et blessures lui infligées par son mari indien. Une violence conjugale que condamne le gouvernement congolais. Et puis il y a encore eu des morts à Beni, au Nord Kivu. Le bilan de ces tueries attribuées au ZDF fait état d'au moins 9 morts. Massacre ayant eu lieu dans les localités et villages de Tenambo, Nzanza et Mamiki, dans la cité d'Oisha à 30 km de Beni. Pour en parler ce soir, je reçois dans ce studio Ambroise Mamba. Bonsoir.
Bonsoir Mary.
Vous êtes directeur général de la chaîne de presse Tropicana, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa. J.R. Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Mary, Flankrin, Louchara.
Vous êtes journaliste et présentateur du magazine Semaine en Image, c'est bien ça?
Et c'est bien ça.
Voilà, à Canal Congo Télévision, émettons à Kinshasa. Et en province, je reçois au téléphone Ali Boukassa. Bonsoir.
Bonsoir Berry, Franklin Louchaka. Bonsoir aux deux collègues.
Vous êtes journaliste à la radio communautaire Toutante, émettons à Mweneditu dans la province du Haut-Lomami. Tribune de presse préparée avec le concours rédactionnel d'Alain Irung, Julien Nyamweni et Hippolyte Kapang à la mise en onde. Les débats sont ouverts. D'abord avec cette revue de presse que nous présente Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le dialogue politique. L'Observateur consacre sa une à la première réunion du groupe de soutien à la facilitation du dialogue qui a eu lieu à Addis Abeba lundi 4 juillet dernier et s'interroge. Dialogue, est-ce le bout du tunnel? Le journal révèle que pour la première fois, une date est avancée, fin juillet. Mais le quotidien redoute les caprices de ceux qui s'opposent à la tenue de ce forum. Pour ce journal, si les tergiversations continuent, il serait plus simple aux facilitateurs de commencer avec ceux qui veulent. L'idée d'un dialogue avec ceux qui le veulent semble lancée. Selon le palmarès, en s'adressant aux habitants de Kindu Academy, le président de la République y avait fait allusion. Pour ce quotidien, le pays est pris en otage par les opposants. Les forces vives de chaque provinces doivent se retrouver à Kinshasa dans un contexte national pour trouver des solutions à la crise. Aussi propose-t-il le dialogue des forces vives contre celui des politiques. Concernant ce nouveau massacre à Beni, après une brève accalmie, Beni de nouveau le théâtre de l'horreur, s'indigne le palmarès. Rapportant les propos de l'administrateur du territoire de Beni, le journal décrit l'action qui s'est déroulée de 4h à 6h du matin, mardi 5 juillet dernier, sous une pluie battante et qui a fait au moins 9 morts. La tempête des tropiques précise que ce massacre a eu lieu à Oicha, où la population de la partie est de cette ville est de près de 120 000 habitants se déplacent vers la partie ouest. Selon ce journal qui relaie l'AFP, un officier supérieur étranger, familier de l'est du pays, déplore le manque de volonté politique de ramener l'ordre dans cette région. Horreur à Kinshasa. La tempête des tropiques signe. Horreur à Kinshasa, des corps sans vie repêchés de la rivière Njili. Plus de 6 corps flottants portant des marques de violence ont été tirés des eaux de la Njili, un affluent du fleuve Congo. La Njili, qui prend source dans la province du Congo central, traverse plusieurs communes de Kinshasa avant de se jeter dans le fleuve Congo à la hauteur de Kingabwa dans la commune de Limété. S'interrogeant sur les auteurs de ces crimes, ce journal écarte la thèse de Kuluna, les bandits de la ville de Kinshasa, parce que les délinquants sociaux de Kinshasa tuent généralement à la machette et leurs victimes sont souvent solitaires. Ce quotidien soupçonne des tueurs professionnels et demande au gouvernement de diligenter une enquête. Terminons par le potentiel qui classe la nouvelle dans sa rubrique « Faits divers ». S'interroge, est-ce l'œuvre des gangs de quartier, un règlement de compte ou un cas d'exécution sommaire? Le journal rapporte que selon le bourgmestre de la commune de Limété, l'âge des victimes varie entre 20 et 30 ans. Cette affaire, conclut ce quotidien, est un casse-tête après l'énigme de la fosse commune de Maloukou, non élucidée jusqu'à ce jour.
Merci Alain Irung. Vous l'avez entendu, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete a ouvert mercredi une enquête judiciaire en rapport avec les corps sans vie découverts sur la rivière Njili dimanche dernier, tel que l'a dit Alain tout à l'heure dans sa revue de presse. Selon les témoignages, les habitants du quartier riverain de la commune de Massina, il y a eu 7 corps, dont les mariés accompagnés de leur fille d'honneur en provenance d'une soirée de mariage que des pêcheurs ont découvert vers le pont Ngwélé. Mais à en croire le procureur général de Matete, l'enquête porte sur 3 corps qui charriaient la rivière. Ambroise, quelle lecture vous faites de cette situation?
C'est une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle pour la capitale, justement parce que c'est pendant ce temps où on apprend des tueries qui se passent à Béni, dans le Nord Kivu, et c'est pendant ces temps qu'on est en train de parler un peu politique avec la situation socio-politique qui préoccupe de plus en plus, mais on apprend qu'il y a des corps sans vie qui sont retrouvés dans une rivière.
Est-ce qu'on peut parler d'un fait divers?
Fait divers, non. À mon avis, non. C'est pas un fait divers parce que vous savez que ce qui se passe à Béni peut s'exporter, si vous voulez, ici à Kinshasa et mettre en péril la vie de beaucoup de gens. Et c'est pourquoi l'enquête qu'a ouverte le parquet de Matete doit donner la lumière assez vite pour qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. Et je voudrais, bon, puisque j'ai appris qu'on a réquisitionné un médecin, on a réquisitionné la police scientifique pour arriver à pouvoir
éclairer
les causes de ces tueries, savoir ils sont morts de quoi. Et je pense que c'est des choses qu'il faut faire rapidement, parce que quand il y a des gens qui meurent comme ça, vous savez, la première tendance c'est quoi? On a toujours pensé que ce sont toujours les politiciens qui font des choses comme ça, ou bien les tenants du pouvoir. C'est des choses qu'on a toujours pensées. Et je pense qu'ici, le pouvoir en place doit quand même chercher rapidement à faire la lumière là-dessus, au travers de sa justice, pour qu'effectivement, on ne dise pas que c'est des pouvoirs qui auraient fait des choses comme ça. Sinon, ça va encore créer la psychose au sein de la population.
D'accord. JR, le procureur a annoncé une enquête sur 3 des 7 corps découverts dont la population avoisinante a constaté. Qu'en pensez-vous?
Oui, voilà. On n'aurait pas dû mener une enquête rien que sur les 3 corps, comme il y en avait, je crois, 7. Il faut qu'on mène des enquêtes, en tout cas, sur tous ces 7 corps, parce que ce sont des Congolais. Donc, je ne crois pas qu'il y a des victimes de première zone et d'autres qui sont des secondes zones. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, ça crée, en tout cas, la psychose, comme l'a dit
Ambroise Mamba, ça effraie les Congolais, les Quinois, et on a découvert des charniers il n'y a pas longtemps, non élucidés. Bon, je me demande, est-ce que cette enquête en tout cas donnera une suite, parce qu'il semble que la meilleure façon, chez nous au Congo, pratiquement...
Vous voulez bien que vous êtes dubitatif d'enterrer un dossier, lancer le procureur.
Voilà, d'enterrer un dossier, c'est d'ouvrir une enquête. Donc j'aimerais vraiment que cette fois-ci, quand on aura ouvert cette enquête-là, que cette enquête aboutisse à des résultats, qui est aussi, je crois, quand même des enquêteurs indépendants comme ceux du bureau conjoint ou de certains organismes, pour qu'il n'y ait pas quand même des gens...
Mais est-ce qu'on ne va pas plier à l'ingérence politique des affaires, aux affaires intérieures?
Non, mais il n'y aura pas d'ingérence, parce qu'on voudrait quand même clarifier la chose, parce que si ce sont des sociétaires de l'État, des préposés de l'État, qui les font seuls, on dira que non, en fait, ils ont des choses à cacher. Va falloir quand même qu'il y ait aussi des membres indépendants qui participe à cette enquête-là. Mais je regarde quand même les propos du bourgmestre Dimété, qui dit que non, c'est pas la première fois qu'on retrouve des corps. Voilà, c'est habituel. Donc, il y a eu beaucoup de fois qu'on a découvert des corps et qu'il n'y a eu pas d'enquête, qui s'est passé comme ça, comme si c'était des cadavres des chiens qu'on avait retrouvés sous la rivière. Je crois que cette fois-ci, il va falloir quand même qu'on mette des enquêtes, qu'on retrouve les assassins, qu'on comprenne pourquoi, par exemple, un couple nouvellement marié peut être retrouvé comme ça dans la rivière avec des filles d'honneur. Je crois que c'est vraiment horrible comme scène. Ça s'est passé dans mon quartier le dimanche et les gens étaient vraiment terrifiés et ils sont dans la psychose. Il faut que le gouvernement, à travers cette enquête-là, puisse en tout cas rassurer la population.
Ali, vous êtes à Mouenéditou. Quelle lecture vous faites de cette situation? Ali, vous nous entendez? Nous allons le récupérer d'ici là. Entre-temps, la deuxième actualité de cette semaine, c'est la publication des résultats de l'examen d'État édition 2016 qui a commencé mercredi 6 juillet. Elle concerne seulement la ville de Kinshasa et l'inspecteur général de l'EPSP qui a livré cette information à Radio Kapi a précisé que la publication pour les autres provinces se fera progressivement. Ambroise, déjà mercredi, Kinshasa a été dans la ferveur. Comment vous avez analysé cette publication?
Ça ne m'intéresse plus de plus en plus. Ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que ce qui m'importe, moi, c'est la qualité de l'enseignement qui reçoivent ces élèves. Ce n'est plus ces réjouissances-là. Ça n'intéresse plus personne actuellement. Je pense que il y a quand même une rapidité avec laquelle on publie ces résultats. Le ministre,
c'est quand même un peu positif.
Ça fait pratiquement, on est à la quatrième année pratiquement. C'est que le ministre peut se taper la main sur la poitrine par rapport à ça. Point positif, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ceux qui se réjouissent après cette publication rapide des résultats?
Donc vous êtes d'accord avec le ministre de l'EPS.
Mm-hmm. C'est à ce niveau que le ministre de l'EPS mm-hmm. devrait quand même se dire, mais je dois quand même chercher à réformer peut-être l'enseignement. Non seulement qu'il y ait une publication rapide des résultats d'examen d'État, mais aussi qu'il y ait quand même des têtes bien faites après un cursus scolaire, qu'on trouve quand même des élèves qui vont aux humanités avec une base
à l'université,
avec une base. C'est ça la question la plus importante. Parce que lorsque vous allez dans des entreprises aujourd'hui, les stagiaires qui arrivent au niveau des entreprises, ils n'ont pas des niveaux. On se demande s'ils ont eu des bases, ainsi de suite. Et là, le ministre semble fermer les yeux. Il semble vouloir rester dans son bureau climatisé parce que il a fait publier rapidement les résultats d'examen d'État. On lui a dit, monsieur le ministre, bravo pour ce que vous avez fait. Mais malheureusement, nos enfants, ceux qui se réjouissent actuellement pendant que nous passons cette émission, ceux qui se réjouissent pratiquement actuellement, sont incapables de défendre leur diplôme.
D'accord. Est-ce que, Gire, vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Ambroise?
Oui, pas totalement. Moi, je me félicite quand même de la rapidité, de la vitesse avec laquelle les résultats ont été publiés. Je crois que c'est un point positif à souligner, parce que je me rappelle qu'il y a des années où on assistait déjà à une rentrée académique, que quelqu'un qui avait présenté les examens d'État s'est déjà fait inscrire et même payer le frais académique. Et les résultats sortent après, on lui dit que tu n'as pas réussi, on est obligé d'abandonner pratiquement les études universitaires. Je crois que c'est quand même positif, mais on aurait dû quand même l'échelonner dans les temps, plutôt que de sortir comme ça. Du coup, à Kinshasa, vous savez, la ville était paralysée, il y avait un concert, des klaxons, il y avait des scènes, des liesses partout, pratiquement une certaine folie collective qui avait attrapé les élèves. Mm-hmm. Donc, une chose est de pouvoir normaliser par exemple la publication des résultats, une autre est de faire en sorte que ceux qui ont ces diplômes-là soient véritablement des diplômés, qu'on n'ait pas affaire à des porteurs de diplômes, et avoir même la façon dont les gens sont en train de festoyer, de faire du boucan dans la ville. J'ai comme l'impression que, comme on dit, ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Et nous travaillons dans des médias, nous recevons des stagiaires, nous en savons quelque chose. Donc je crois qu'il ne suffit pas seulement de verser dans les spectaculaires, tout ça. Un diplôme d'État, ce n'est pas une question de folklore ou de spectacle. C'est une question de former des gens capables de pouvoir en tout cas se défendre. Donc il faut qu'on puisse songer en tout cas à l'amélioration de la qualité du niveau d'études de nos enfants. Et pour le faire, je crois qu'il faut aussi soigner les conditions de travail et de vie d'enseignants.
Merci. Alors la réalisation me fait signe que Ali Boukata est en ligne. Ali, vous m'entendez?
Je vous entends, Berry.
Voilà, vous avez suivi les deux actualités de la semaine. Le parquet général qui a ouvert une enquête judiciaire en rapport avec les corps sans vie découverts sur la rivière Ndjili et la publication des résultats de l'examen d'État édition 2016. Quelle lecture vous faites de ces deux actualités rapidement avant qu'on entre dans le premier thème de notre soirée?
Déjà, je vous dis merci de l'invitation, Berry. Je dois préciser à ce stade des choses que j'interviens depuis la ville aînée de la province de Lomami et non au Lomami. Quant à la sortie du parquet dans le dossier de nos 9 compatriotes trouvés morts, je dis que c'est déjà une très bonne chose. C'est tout ce que le parquet pouvait faire parce que c'est lui le représentant du ministère public. Il ne pouvait que faire cela. Mais comme l'habitude de notre pays, c'est qu'il y a des enquêtes qui commencent comme ça et qui n'aboutissent pas, le souhait aujourd'hui, c'est que l'on trouve, que l'on sache ce qui s'est réellement passé avec ces corps noyés et retrouvés. Quant à la deuxième actualité à commenter, qui est la publication des résultats des examens d'État édition 2015-2016, ici bravo au ministre Mathieu Mangou pour cette célérité dans le traitement et la publication de ces résultats. Je crois qu'au à l'instar des confrères avec qui vous êtes au studio, tout ce que nous aimerions en République démocratique du Congo, c'est qu'on ne se limite pas seulement à la lettre, mais beaucoup mieux à l'esprit. Est-ce que nous formons des diplômés ou des détenteurs de diplômes? Parce qu'il y a une différence entre être déclaré diplômé et faire valoir le diplôme en soi.
Merci beaucoup. Et tout de suite, nous entrons dans notre premier thème de la soirée qui concerne la Congolaise tuée en Inde. Une vive tension a régné mercredi avant midi au grand marché de Kinshasa et ses alentours. En cause, la population a manifesté contre l'assassinat d'une Congolaise en Inde. Selon plusieurs sources, cette dame aurait été tuée par son mari de nationalité indienne. En réaction, le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger a parlé d'une violence conjugale que condamne le gouvernement congolais. Antoine Boyamba appelle la population congolaise au calme et d'après lui, le gouvernement suit de près cette situation. On l'écoute au téléphone d'Étienne Kalema.
J'ai appris cette nouvelle hier par notre ambassadeur en Inde qui m'a donné les détails de ce qui s'est passé. Ce fait que le couple en question, je le connais très bien. C'est pas un Indien qui habite hier, un Indien d'Inde, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un Indien de Kinshasa. Le couple s'est connu à Kinshasa et le couple a un enfant. Je connais bien Sinta, je connais bien son mari, là, le jeune homme. Et je les ai même eu au téléphone. Il y a de cela 3 semaines, j'étais en Inde. Nous avons parlé. Bon. Mais c'est un cas malheureux. Donc, ce n'est pas qu'un Indien a cherché à tuer une Congolaise. C'est un malheur qui arrive dans un couple, comme ça peut arriver à Kinshasa, qu'un homme batte sa femme, ce qui est condamnable. On condamne ça. Quelles que soient les raisons, un homme qui bat sa femme est arrivé jusqu'à la tuer. Même si c'est accidentel, mais il y a mort. Ce que nous retrouvons, ce que nous condamnons.
Propos recueillis par Étienne Kalema. Et si vous venez de nous prendre en cours, sachez que la tribune de presse de ce soir reçoit Ambroise Mamba, directeur général de la chaîne de presse Tropicana, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa, J.R. Mokolo, journaliste et présentateur du magazine Semaine en Images à Canal Congo Télévision, une télévision émettant à Kinshasa. Et en province, nous avons au téléphone Ali Boukassa, journaliste à la radio communautaire Tutante, émettant à Mweneditu, dans la province du Lomami. Ambroise, comment vous avez analysé ce dossier de cette Congolaise tuée en Inde?
Bon, c'est déplorable. Il me semble que ce dossier est un peu différent de celui de mai dernier, lorsqu'on a vu un jeune professeur congolais tué par 3 hommes à New Delhi. Et le vice-ministre de congolais de l'étranger parle d'une violence conjugale.
Mais ça se passe quand même en Inde.
Ça se passe en Inde, justement. Bon, je semble comprendre un peu la réaction même des Congolais, parce que ici, il y a eu une manifestation des Congolais en protestation à ce qui s'est passé en Inde. Et le ministre a expliqué qu'il s'agit, le vice-ministre a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un cas d'un Indien qui cherche à tuer une Congolaise, mais il s'agit d'une violence conjugale. Donc un homme qui a rué des coups sur sa femme.
Ça pouvait bien se passer aussi en France.
Ça pouvait se passer en France,
en Espagne.
Mais le problème, quand ça se passe en Inde, ce n'est pas la première fois. Il y a un contentieux. Ça s'est passé déjà il y a plusieurs fois auparavant. Mais on s'est dit, mais est-ce que cet Indien qui a tabassé sa femme congolaise l'a fait parce qu'il y avait un malentendu dans le couple, ou il l'a fait avec certaines motivations xénophobes? C'est ça le problème. S'il y avait des motivations xénophobes, le problème est à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que les Indiens se comportent de cette manière vis-à-vis des Congolais? Ça peut justifier la réaction des Congolais sur place à Kinshasa. Mais bon, comme le ministre a expliqué qu'il connaissait bien le couple, c'est vraiment déplorable.
Vous accordez le bénéfice du doute au ministre.
Mais la Congolaise en question, c'est quand même une personne. Elle est aussi couverte par la loi indienne elle-même. Est-ce que les Indiens, de quelle manière ont-ils réagi pour au moins couvrir par leur justice cette femme congolaise qui a été tuée de cette manière-là? C'est ça le problème, puisqu'on ne connaît pas du tout le secret de ces coups qui se sont donnés dans leur maison. Mais le plus grand problème aujourd'hui, il faudrait que nos autorités sachent prendre langue avec quand même le gouvernement indien pour qu'on clarifie cette situation, qu'on sache quand même que Autant les Congolais sont en Inde, autant les Indiens sont au Congo, il y a quand même il y a des relations que nous entretenons avec ce pays. Mm-hmm. Il faut à ce niveau que nous puissions quand même nous respecter et en vue d'éviter les dérapages, puisque si on tuait aussi un Indien ici, ce serait un incident diplomatique.
Voilà. Alors, JR, comment vous avez analysé la réaction de la population?
Oui, c'est une réaction que je comprends, mais que je n'encourage pas, parce que ce ne sont pas tous les Indiens qui sont basés ici.
Peut-être parce que le gouvernement ne fait rien.
Non, je n'ai pas encore fini, je dis. Ce ne sont pas ces Indiens qui sont ici, qui sont à la base de cet assassinat. Donc c'est un citoyen indien qui doit payer en tout cas pour ce qu'il a fait, et notre gouvernement a l'obligation de pouvoir en tout cas, je crois, assurer une couverture diplomatique à la famille de cette personne assassinée pour que vraiment ces crimes-là ne puissent pas rester impunis. Quant à ce qui s'est passé ici, je dis que je comprends la colère parce que c'est pas la première fois, comme l'a relevé Ambroise Mamba, qu'on assiste à un crime contre un Congolais ou une Congolaise en Inde. Le gens sentent ça comme étant comme c'est pas une haine, comme une chasse aux Congolais. Et ce qui fait qu'ici, on voudrait aussi, en tout cas, régler les comptes aux Indiens. Et je me félicite quand même du fait que les forces de sécurité de l'ordre ont tout fait pour que les opérateurs économiques indiens qui sont basés ici ne soient pas touchés, en tout cas, dans leurs affaires, parce qu'ils ne sont pas auteurs de ces crimes-là. Il va falloir que notre gouvernement fasse tout pour que la lumière soit faite sur même les crimes qui ont été commis bien avant. S'il faut quand même qu'on nous dise les professeurs qui ont été assassinés, ce procès-là est arrivé à quel niveau? Qu'est-ce qu'on a fait des assassins? Est-ce que la famille de la victime a été indemnisée? C'est ça le grand problème. C'est pas seulement en Inde que les Congolais sont malmenés. On l'a vu dans nos pays voisins ici. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la première dame a pu quand même secourir des victimes des exactions.
C'était en son propre nom.
Voilà. Des Congolais à Brazzaville. On a comme l'impression que notre propre gouvernement ne prend pas en tout cas ses responsabilités en termes de protection diplomatique qu'on doit assurer à ses ressortissants.
Mais justement, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire dans pareille situation?
Le gouvernement devrait en tout cas montrer qu'il a les soucis de ses ressortissants.
En faisant quoi?
Quelqu'un a dit par exemple que dis-moi comment tu traites tes propres ressortissants. Et je te dirais comment un étranger peut les traiter. On les voit en Angola, Congo-Brazzaville, un peu partout. Et parce que c'est passé au Congo-Brazzaville, par exemple, j'aurais souhaité que des procès soient organisés, que des victimes soient indemnisées. Et ce n'aurait même pas la première dame qui sortirait de sa propre porte-monnaie pour voler au secours de ceux qui étaient victimes des exactions de Brazzaville. Ça aurait été peut-être les indemnités payées, dommages intérêts payés par le gouvernement congolais d'en face, qui aurait pris en charge tous ces ressortissants congolais qui étaient parqués comme du bétail.
D'accord.
Donc il va falloir vraiment que nos dirigeants prennent leurs responsabilités, qu'ils se montrent quand même humains face aux souffrances de leurs ressortissants, et faire en sorte quand même que les Congolais soient traités dignement partout où ils sont, parce que nous ici, nous sommes un territoire en tout cas qui est réputé comme une terre d'accueil.
D'accord. Alors Ali, comment vous, à Mouenéditou, vous avez accueilli cette information de cette Congolaise tuée en Inde?
D'abord, Derrière, rappelons ici que l'infortunée Cynthia Kabimatibunda devrait avoir certaines acquaintances qui ont origine de l'espace avant le découpage. C'est que ici, à Mouenéditou, comme dans les alentours, nous sommes très intéressés par rapport à ce qui s'est fait, à ce qui s'est passé en Inde. C'est que pour nous, personnellement, le gouvernement devrait faire une communication responsable et à la minute par rapport à ce dossier, étant donné que, vous voyez, ce sont deux cas qui se suivent dans un intervalle de 2 mois, mm-hmm. C'est vrai que la nature de ces incidents ne sont pas les mêmes, mais du moins, le dénominateur commun, j'y arrive, c'est que les deux sont congolais. Comment ça se passe
aussi en Inde?
Et ça se passe aussi en Inde. Quand le hasard commence à se succéder l'un après l'autre, c'est que ça pourrait aussi faire place à une habitude. Soit dans un quartier, il n'y a que vos enfants qui sont tapés, soit vos parents n'avaient pas d'autorité, soit on vous veut. Voilà pourquoi je dis encore une fois, on a besoin d'une communication. Parce que quand on communique souvent, on crée une certaine communauté de vues. Sur ce point, le gouvernement, encore une fois de plus, a intérêt à accompagner ces dossiers. C'est vrai qu'en Inde, il devrait y avoir ouverture de dossiers judiciaires. Mais que cela soit connu des Congolais pour qu'il y ait apaisement. Pendant ce temps, parce que je parle d'apaisement des riz, il faut noter également que ce qui se passe au marché central de Kinshasa, comme on l'apprend, c'est une aussi réaction d'expression. Les Congolais disent que même si la Congolaise, la compatriote, est loin et seule là-bas dans la maison de cet Indien, nous sommes avec elle et nous compatissons. Mais pendant ce temps, il faut rappeler que le monsieur ayant commis son forfait était en train de fuir, sinon de cacher les preuves. C'est plutôt ses compatriotes du village de Mandapali qui l'ont intercepté, maîtrisé et puis pour l'amener à la police. C'est un élément, un comportement qu'il faut aussi relever pour rappeler les uns et les autres, surtout au Congo, que ce n'est pas l'Inde qui a agi, qui a tué notre compatriote, mais plutôt un sujet indien et c'est un malheur qui est arrivé. Mais ce que nous voulons, c'est que ça ne puisse pas se répéter.
D'accord. Alors, vous voulez réagir?
Vous avez posé une question importante à JR. Que devrait faire le gouvernement? Je voudrais d'abord relever quelque chose. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger a dit qu'il connaissait bien ce couple. Ce couple et vient de Kinshasa. Ils se sont connus ici à Kinshasa. Est-ce que ces sujets indiens pouvaient donner des coups à sa femme ici à Kinshasa? J'ai dit non. Peut-être qu'il aurait peur de la réaction de la famille de la fille. Mais quand il se retrouve en Inde,
dans
la culture
territoire
indienne lui est revenue en tête. Il regarde maintenant la Congolaise en face. La xénophobie sonne en lui. Il donne des coups, il donne des coups à la barbarie. Et puis il donne de la mort à sa femme.
Et comme l'a dit Ali, c'est les habitants du village dans lequel le monsieur vit qui l'ont intercepté et qui l'ont amené à la police.
Justement, c'est juste pour dire que non, quand il épousait cette fille ici à Kinshasa, après qu'il y ait des attirances réciproques des corps, mais il se retrouve en Inde, il a une autre veste, mais là d'Indien, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, il se comporte comme les trois autres hommes qui venaient de tuer un jeune professeur congolais en mai dernier. À ce moment-là, le gouvernement congolais devrait faire quoi? Il faut un signal fort, rappeler au pays l'ambassadeur, puisque c'est l'ambassadeur qui a tenu informé le vice-ministre des Congolais de l'étranger. Rappeler l'ambassadeur au pays pour donner un signal fort au gouvernement indien que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le traitement que vous réservez à nos ressortissants chez vous. Alors quand vous rappelez votre ambassadeur, et de cette manière-là, vous avez la possibilité de dire au monde entier que nous protégeons les nôtres. Mais lorsque vous ne faites rien, vous vous limitez à faire des communiqués. Le gouvernement congolais condamne avec la dernière énergie, ainsi de suite. Mais c'est ce que nous sommes habitués à entendre. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Mais il n'y a pas
quelque chose de neuf.
Il n'y a rien de neuf.
D'accord.
Et là, vous poussez vos ressortissants à se comporter comme ils se sont comportés ici lorsqu'on a vu ces manifestations, des protestations à Kinshasa pour qu'on envoie les agents de l'ordre sur terrain. Mais il faut éviter ça, justement, et surtout suivre de près par rapport à l'ancien dossier, le procès. Comment il s'est terminé? Est-ce qu'on a donné de la valeur aux Congolais, ainsi de suite? Il faut arracher cette liberté et puis se donner de la valeur dans le monde entier.
Je vois Gir qui n'était pas d'accord avec vous. Gir, vous avez la parole.
Mettons qu'Ambroise Mamba parle de xénophobie. Je crois que si vraiment cet Indien a été xénophobe, je crois qu'il n'aurait pas épousé une Congolaise et l'amener chez eux là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec xénophobie. C'est sûrement que c'est par jalousie que cet Indien en tout cas a perdu le contrôle.
Vous pouvez tuer votre femme par jalousie?
Non, non, je ne justifie pas. Je dis que chacun a son tempérament, chacun a sa culture. Mais le problème, la grande difficulté pour le gouvernement congolais, c'est laquelle? On a eu affaire, par exemple, au cas de l'Angola ou du Congo-Brazza. Là, ce sont des préposés de l'État, hein, les fonctionnaires de l'État, mm-hmm. qui portent la main sur des Congolais qui les violentent. Là, le gouvernement congolais peut rappeler un ambassadeur, peut agir. Mais là, il s'agit, il s'agit de crimes perpétrés par des privés, des particuliers, qui n'engagent pas l'État. Je ne crois pas que ce soit une politique du gouvernement indien. Je ne me fais pas, en tout cas, l'avocat du gouvernement indien, mais ils sont en train de faire un peu une différence entre le cas de nos voisins ici qui nous maltraitent et le cas qui se passe en Inde. Donc, il ne s'agit pas d'une politique de leur gouvernement, mais il s'agit des particuliers qui se méconduisent par rapport à la loi indienne.
C'est particulier, c'est particulier. Comment est-ce que le gouvernement indien réagit?
Je ne t'ai pas coupé. Mmh. Je suis en train de me couper, en tout cas, le fil d'idée. Donc, je pense que ce que le gouvernement doit faire, je dois me répéter, c'est que le crime est déjà commis. Il faut s'assurer que cet assassin, en tout cas, fait face à la loi.
S'assurer de quelle manière?
Qui paye pour ce qu'il a fait. On a vu, par exemple, les États-Unis d'Amérique, avec les ressortissants d'Harry Lewis. La mission diplomatique américaine ici était, quand il y avait ces procès-là, il a tout suivi, ils ont tout fait pour que les ressortissants se tirent d'affaires. Nous, il va falloir que nous aussi, nous puissions nous assurer qu'il y a un procès en bonne et due forme. On peut même, par exemple, payer des avocats pour assister à ces procès, assister à la famille de la victime, et même pour le professeur aussi, mm-hmm. qui venait d'être assassiné il n'y a pas longtemps, mm-hmm. pour que ces gens-là soient condamnés, les assassins soient condamnés, et que les dommages et intérêts soient payés à la famille.
D'accord.
Et demander au gouvernement indien, par exemple,
parlons,
de pouvoir...
Parlons de cette proposition. Ambroise propose que, par exemple, que le gouvernement rappelle l'ambassadeur, notre ambassadeur en Inde, ici, et comme signal fort. Vous proposez quoi à la place?
Mais c'est pas suffisant. Mm-hmm. C'est pas suffisant parce que vous pouvez beau rappeler l'ambassadeur. Mais si, par exemple, cette famille-là, qui a perdu sa fille, la famille du professeur qui a perdu leur fils, si rien n'est fait contre les criminels indiens, mais d'autres indiens aussi pourront continuer
à
tuer les Congolais impunément.
D'accord.
Il faut qu'on mette fin à l'impunité aussi.
D'accord.
Que le gouvernement congolais, en tout cas, s'assure que l'impunité n'existe pas dans ces cas d'assassinat des Congolais
okay.
en Inde.
Ali, vous entendez le débat tel qu'il se déroule. Quelle est votre lecture, votre proposition par rapport à ce que vient d'évoquer Ambroise?
Ma proposition, je l'avais déjà faite, Berry. Je la reprends. Il doit y avoir une communication permanente du gouvernement congolais. Notre gouvernement doit communiquer suffisamment par rapport à ce cas. Parce que ça commence à devenir déjà trop. Un, deux cas, c'est déjà une habitude qui se crée. Comment ce ne sont que des Congolais? Comment ce n'est qu'en Inde? Ces deux questions la préoccupent et voudraient bien être élucidées. Voilà, je suis un peu de concert avec les collègues, mais ce que je voudrais, en lieu et place de rappeler l'ambassadeur, notre ambassadeur de l'Inde au pays, c'est mieux de voir d'abord qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce que le gouvernement indien fait de ce présumé coupable meurtrier de notre compatriote. Je crois, nous compatissons, mais ne mélangeons pas le sentiment avec les dimensions d'État. Ici, je crois que le gouvernement congolais et celui indien doivent parler par rapport à cela et notre signal de notre côté doit être fort pour que l'on sache respecter le Congolais, peu importe où il est, et même si c'est à des millions de kilomètres.
D'accord, merci beaucoup. Très rapidement, parce qu'on doit rentrer dans notre deuxième thème de la soirée.
En une minute, mm-hmm. Ali pose une bonne question. Que fait le gouvernement indien vis-à-vis de ces tueurs? Mais pour répondre à cette question, mais il faut savoir comment est-ce que nous, la RDC, nous entretenons nos relations avec le gouvernement indien. Mm-hmm. Mais c'est à travers la diplomatie. Mais la diplomatie, c'est à travers notre ambassadeur que nous pouvons rappeler au pays pour donner un signal fort. À ce moment-là, nous poussons le gouvernement indien à
à se poser des questions et à trouver des solutions.
Dit que même, nous avons, il y a un incident diplomatique, il y a un gouvernement, le gouvernement congolais n'est pas d'accord avec ce que nos ressortissants ont fait sur les ressortissants congolais. On a rappelé l'ambassadeur à Kinshasa. Donc nous pouvons nous intéresser sur cette question parce que la personne ne sera pas jugée ici à Kinshasa. Même le procès dont nous parlons, ça se passe là-bas. C'est la loi indienne qui juge les tueurs.
D'accord. En une minute aussi, Gilles, pour clôturer ce thème,
qu'est-ce que je voudrais dire à Ambroise Mamba que même ici au Congo, à Kinshasa, il y a des étrangers, patrons de sociétés, qui agressent, qui violentent des Congolais dans leur propre pays. Et souvent, ils sont protégés aussi.
D'accord, merci beaucoup. Et c'est sur cette note que nous allons rentrer dans notre deuxième thème de la soirée concernant la sécurité ou l'insécurité au Nord Kivu. Justement, dans cette partie du pays, il y a eu au moins 9 morts, bilan encore provisoire, des civils tués tôt le matin du mardi à Beni Territoire. C'est précisément dans les localités et villages de Tenambo, Nzanza et Mamiki, dans la cité d'Oicha, à 30 km de Beniville. Des hommes armés identifiés comme des ZDF ont fait incursion dans cette zone avant de piller et tuer ces civils, certains par balle et d'autres à la machette. L'on signale présentement un mouvement des populations fuyant la région affectée par cette attaque. Gisèle Cage nous fait le point.
Ces présumés EDF ont opéré de 4h à 6h ce mardi sous une pluie battante dans la région de Oicha, selon Amishi Kalonda, administrateur du territoire de Beni. Alors que certains combattants pillaient des habitations, vivres et bétail, d'autres tiraient des coups de feu en l'air ou sur la population, soit massacrés à coups de machette, disent ces sources. Les bilans provisoires font état de 9 personnes tuées. Pour Teddy Catalico, président de la société civile de Beni Territoire, la menace des EDF n'a pas été prise au sérieux par les autorités compétentes, alors que depuis plusieurs jours, des tracts circulaient à Beniville et Territoire, annonçant une imminente attaque de ces rebelles ougandais. Teddy Catalico.
Les autorités auraient dû prendre certaines dispositions pour contrer l'ennemi, aux autorités de collaborer beaucoup plus avec la population et de prendre au sérieux les messages qui arrivent. Nous estimons qu'il est temps qu'on prenne des dispositions tout autour de Oicha, tout autour de Beni, pour éviter que des pires ne nous arrivent.
Ce n'est pas l'avis de Makazukai, le porte-parole de l'opération Sokola 1. Pour lui, les troupes FARDC sont en alerte depuis plusieurs semaines. Il précise que l'ennemi a tout simplement profité de la pluie pour opérer. Entre-temps, de nombreux civils quittent l'est de Oicha et se dirigent vers l'ouest pour se mettre à l'abri. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Merci Gisèle Cage. Ambroise, comment vous analysez ce nouveau massacre à Beni?
Je suis peiné parce que on est à environ 600 civils tués depuis 2014. 600 civils tués.
Et des milliers de familles qui sont déplacées.
Donc, c'est devenu une grosse épine dans le pied du gouvernement congolais. Grosse épine. Je me pose la question, parce que c'est attribué aux ADF Nalu, est-ce que a-t-on vraiment localisé la zone d'occupation des ADF Nalu? A-t-on vraiment localisé cette zone? Si oui, que fait le gouvernement congolais pour arriver à en finir une fois pour toutes avec ces rebelles ougandais? Ils sont ougandais, en train de tuer des Congolais
sur le territoire congolais.
Par rapport à la RDC, où ils ont des revendications par rapport à leur pays.
Mais quand la société civile dit que les ZDF menaçaient déjà, ils avaient déployé des tracts à travers la ville et que la menace n'a pas été prise au sérieux, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça signifie que les FARDC, la police, ont déjà été prévenus auparavant que les ZDF vont opérer. Alors, ça signifie quoi? Est-ce que la menace n'a pas été prise au sérieux? Ou tout simplement...
Vous avez entendu le porte-parole de l'armée affirmer...
Il y a peut-être ce qu'on peut qualifier d'inefficacité du déploiement des forces de l'ordre pour sécuriser la population. Je suis en train de me poser cette question. Alors, en même temps, je me demande qu'il y a peut-être cette difficulté. Est-ce que c'est peut-être difficile d'avoir un policier ou un militaire à côté de chaque Congolais pour l'accompagner au champ, pour l'accompagner au marché, pour l'accompagner partout où il irait, ou pour rester avec lui chez lui à la maison. En même temps, je comprends ça. Mais le problème se trouve à ce niveau. Puisque c'est difficile de pouvoir accompagner chaque Congolais partout où il ira, il y a la possibilité de pouvoir localiser ces ADF Nalu, soit passer par des opérations du genre couvre-feu, pour arriver à mettre hors d'état de nuire ces rebelles.
D'accord.
Mais ici, la MONUSCO MONUSCO aussi peut nous aider. La MONUSCO est là aussi pour ça. Je suis en train de vouloir que ces relations entre MONUSCO et FARDC retournent au beau fixe pour qu'effectivement on soutienne les FARDC dans ce sens. Sinon, on déplorerait toujours cette situation. On la qualifie déjà du terrorisme, ce qui n'est pas bon pour notre pays. Et si ça avance jusqu'à Kinshasa, parce qu'on vient de déplorer aussi des corps tués sans vie en Djili, donc ça risque de s'exporter à Kinshasa et c'est pas bon pour notre pays.
D'accord. JR, quand le porte-parole de l'opération Sokola 1 affirme que les troupes des FARDC étaient en alerte depuis longtemps et il rejette les accusations de la société civile et il dit même que l'ennemi a profité de la pluie pour commettre ses opérations ou ses actes ignobles, comment vous analysez cela?
Oui, il est entré là pratiquement de justifier l'inefficacité de notre armée et même de la MONUSCO, semble-t-il. Les deux forces sont restées armes au pied pendant que les ADF Nalo étaient en train d'opérer. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur les derniers massacres parce qu'il s'agit d'un énième massacre. Je voudrais quand même qu'on aille dans le fond du problème. De un, je me rends compte que nous sommes là en train de faire face à l'héritage de la FDL. Lorsque des compatriotes ont estimé que bon, pour prendre le pouvoir dans ces pays, il fallait rentrer dans un schéma étranger.
Schéma de guerre.
Voilà, où les troupes étrangères devaient amener des compatriotes pour prendre le pouvoir ici. Ils ont pris ce pouvoir et voilà, là où nous en sommes. Depuis que la FDL a pratiquement déclenché sa guerre en 1996 jusqu'à maintenant, l'Est du pays n'a jamais été en paix. Mm-hmm. Ça, c'est de un, de deux. On nous parle pratiquement des ADF Nalo. Mais aucun jour, aucune fois, on n'a jamais arrêté ces assaillants pour qu'on certifie véritablement qu'il s'agit de ces ADF Nalo. Et qu'on arrive, par exemple, comme l'a dit Ambroise Wamba, à retrouver, par exemple, leur quartier général, qui permettra, en tout cas, à pouvoir les neutraliser. Donc la RDC est devenue pratiquement là une poubelle, un dépotoir des groupes armés étrangers qui sont rejetés, chassés de leur pays, qui viennent se déverser ici. Il n'y a pas qu'ADF Nalo, il y a les Mororo, il y a LRA, il y a les
autres. Et de Maï Maï.
Voilà. Et puis on nous dit que non, pratiquement c'était un problème insoluble. On dit non, c'est une guerre asymétrique. Mais comment est-ce que les Ougandais ont fait pour se débarrasser de la LRA et des ADF Nalo? Comment est-ce que les Rwandais ont fait pour chasser les FDLR?
D'accord.
Et alors, que nous ne sommes pas des hommes pour pouvoir faire la même chose que nos voisins, pour pouvoir nous débarrasser de ces combattants, de ces groupes armés qui sont morts et désolation tous les jours.
D'accord. Alors, Ali, vous qui êtes à Mouneditou, vous avez sûrement suivi cette actualité. Comment vous l'avez analysée très rapidement? Parce que bientôt, on va arriver à la fin de notre émission.
Je pourrais vous demander quelques instants de silence pour honorer ces âmes compatriotes de Bénin. Merci déjà. Ici, encore une fois de plus, il y a à déplorer parce que un Congolais est décédé, 9 Congolais sont morts et de manière barbare, tués. Mais ici, je crois qu'il y a le collègue Ambos qui a fait pratiquement la comptabilité macabre. Plus de 600 tués, plus de 600 Congolais. C'est-à-dire que si, par exemple, la ville n'avait que 600 Congolais, c'est-à-dire que cette ville n'aurait plus d'habitants. Et c'est déjà déplorable et terrible. J'ai à me plaindre des autorités locales. On ne fait pas la guerre pour la population sans la population.
D'accord.
Voilà pourquoi on doit associer, je propose, la population dans les techniques, dans les combats. Parce que dans les renseignements, c'est important. La population est un levier très intéressant.
D'accord.
Associer la population à ce jeu, je crois que l'on diminuerait tant soit peu les terroristes.
Merci beaucoup, et ce sera aussi votre conclusion parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. JR, votre mot de conclusion, quelle devrait être la solution pour en finir une fois pour tous, très rapidement?
Oui, la solution, je crois qu'il faut qu'on ait vraiment, on adopte la tactique du contre-terrorisme. Et peut-être, je ne sais pas, comme nous avons aussi des relations diplomatiques avec nos amis ougandais, il va falloir quand même qu'ils nous disent comment ils ont fait pour se débarrasser des ADF.
Merci.
Et il va falloir aussi qu'au niveau de la MONUSCO, avec la brigade d'intervention, au lieu de continuer par exemple à pratiquer la guerre classique, qu'on entre aussi dans la guerre asymétrique.
Merci beaucoup.
Voilà, dans les contre-terrorisme.
La solution, à mon avis, c'est que la MONUSCO, avec sa brigade d'intervention, intervienne en collaboration avec les FARDC pour qu'on en finisse une fois pour toutes.
Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette tribune de presse de ce vendredi. Merci à Alain Irung et Julien Yamouini qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Hippolyte Kapanga était à la prise de son. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur www.radiocapi.net. Entre-temps, excellentes conditions d'écoute sur la fréquence de la paix et bon week-end à tous.